En fin de semaine se déroule à Montréal un championnat de qualification de volleyball assis, une des stratégies mises en place pour faire connaître ce parasport qui a décollé au Canada anglais mais un peu moins au Québec. Pourquoi? On le découvre au Signal. On va parler amplement de volleyball dans l'émission aujourd'hui. Et pour l'occasion, on a même un champion médaillé paralympique à nos côtés. Très heureux de recevoir Josie Rebello. Ex-athlète de volleyball, mais c'est encore un sport que vous pratiquez. On n'a pas décroché du sport encore.
Non, tout à fait. Merci de me recevoir. Oui, je suis encore passionné par le volleyball assis et je le pratique encore, oui.
On va en parler énormément des différents types de volleyball adaptés parce que moi, j'ai appris qu'il y avait différents types. On connaît le volleyball assis, celui que vous avez pratiqué, mais vous en avez pratiqué d'autres dans votre carrière. On va aussi parler du tournoi, évidemment, fin de semaine avec Maxime Gagnon, directeur du défi sportif, qui est là-bas en ce moment, qui a accepté de nous parler par téléphone. Mais avant tout, peut-être faire un petit mot sur votre après-carrière. Vous avez un nouveau rôle au sein de l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud à Montréal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça consiste à quoi?
Donc, l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud, c'est un centre communautaire de loisirs. Ça a été créé il y a plus de 43 ans maintenant pour desservir la population du Centre-Sud, qui était une population défavorisée, et surtout donner... Le mandat de l'association, c'est de donner des opportunités aux jeunes qui découvrent des passions et qui s'impliquent dans ces passions-là. Donc, dans le fond, qu'ils ne soient pas dans la rue puis qu'ils soient tentés par d'autres découvertes moins agréables.
Parfait. Puis d'ailleurs, les activités sont aussi offertes à un prix abordable en plus.
Oui, tout à fait. C'est sûr que l'association, le mandat, c'est les jeunes en tout premier lieu, mais on se dédie beaucoup aux personnes dites vulnérables. Donc, c'est sûr, au niveau des personnes vivant avec une limitation fonctionnelle, on a un paquet de programmes qui sont gratuits pour eux autres. Et on a une grosse clientèle qui vient la fréquenter, soit la salle d'entraînement, soit la piscine, soit les activités en gymnase. On avait même, à un moment donné, du Zumba sur chaise.
C'est populaire, ça. Je vois souvent ça passer.
Donc, c'est ça. Fait qu'on essaie de développer des activités pour les sortir de l'isolement, pour qu'ils viennent socialiser, pour qu'ils participent à la vie active, dans le fond.
On va mettre la programmation complète de votre site Internet sur notre site Internet si les gens sont intéressés, ils pourront consulter sur visevoix.com. Maintenant, passons au volleyball. Il y a un match en ce moment qui a lieu. Des filles qui jouent, l'équipe canadienne féminine joue en ce moment. L'équipe masculine va également être en action. C'est un tournoi auquel vous avez déjà participé, ce type de tournoi-là, qui est de qualification?
Oui, tout à fait. Donc, tout de suite après les Paralympiques, il y a toujours un tournoi de qualification l'année qui suit les Paralympiques et le tournoi de qualification pour les championnats du monde. Et les championnats du monde ont lieu à tous les deux ans après les Paralympiques. Et pour aller aux championnats du monde, il faut se qualifier. Et on voit deux pays par zone. Donc, notre zone à nous, c'est les Amériques.
Okay.
Pour ça que ça s'appelle les panaméricains.
Donc, les deux meilleures équipes vont se qualifier après pour le championnat du monde?
Exactement.
Puis, éventuellement, après, est-ce que les championnats du monde servent aussi de qualification pour les Paralympiques?
Exactement.
Donc, c'est comme la première étape qui mène jusque-là.
Exactement. Fait que ensuite, c'est ça. Les deux premiers aux championnats du monde vont être qualifiés d'office pour les Paralympiques, tandis que les autres vont devoir suivre un autre processus.
Bon, pour les gens qui connaissent, probablement tout le monde, j'imagine, connaît le volleyball. Les gens connaissent peut-être un petit peu moins le volleyball assis. Toi, tu as joué au volleyball adapté de haut niveau pendant plus d'une décennie, autant debout qu'assis. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux versions?
Donc, c'est ça, le volleyball assis. Au départ, quand j'avais commencé au Canada, c'est en 1996, il y a plus de 20 ans. C'était du volleyball debout qu'on avait. Donc, c'est carrément du volleyball régulier, les mêmes règlements. La seule différence, c'est que les athlètes avaient un handicap.
Est-ce que c'était par catégorie, comme par exemple, disons, un bras amputé?
C'est-à-dire que oui, il y avait une classification sur le terrain. On avait, c'était un pointage. Mm-hmm. C'était des A, B, C. Il fallait avoir un maximum de 1 A, c'est-à-dire handicap minimal. Les B, c'était tant qu'on voulait, puis un minimum d'un C, c'est-à-dire un handicap majeur. Supposons amputation d'un bras au niveau de l'épaule, amputation d'une jambe au niveau de la hanche, que ça, c'est un handicap majeur. Donc, il équilibrait les équipes, dans le fond, avec ce type de classification. Fait qu'ensuite, c'est ça, j'étais allé aux Paralympiques en 2000, et ça a été la dernière année où les Paralympiques acceptaient le volleyball debout. Ils avaient les deux volleyballs. Fait que là, il fallait qu'ils fassent un choix. Ils ont choisi le volleyball assis parce qu'il y a plus que 50 pays qui pratiquent le volleyball assis. Contrairement au volleyball debout, il y en avait juste une vingtaine.
Et là, il faut avoir nécessairement un handicap aux membres inférieurs pour se qualifier?
Non, il peut avoir un handicap aux membres supérieurs aussi. Oui, on a des athlètes, justement les Américains, même les Canadiennes. On a des filles et des Américains, Américaines qui leur manquent une partie de bras.
Et vous, votre handicap, c'était quoi? Ben, c'est quoi, c'est-à-dire?
Oui, oui. Oh, ça n'a pas grandi encore.
Il n'y a pas
encore,
de guérison médicale, miracle.
Moi, mon handicap, c'est en dessous du genou. Okay. J'ai perdu ma jambe lorsque j'avais 2 ans. J'ai traversé la rue, un camion passait en même temps et a écrasé la jambe en dessous de mon genou. Okay. Et depuis ce temps-là, ben, je vis avec une prothèse.
Donc, si je comprends bien, c'est possible pour un athlète handicapé qui aime le volleyball d'essayer autant le volleyball assis que debout. C'est quoi qui va faire en sorte qu'on va être tenté plus d'une des versions que de l'autre?
C'est que seul le volleyball assis maintenant est aux Paralympiques.
Mais c'est le gros attrait.
Exactement, c'est le gros attrait. Parce que les championnats du monde et les compétitions nationales, il y en a encore en volleyball debout. Mm-hmm. Sauf que le rêve de tout athlète ou de toute personne est de se rendre aux Paralympiques, bien entendu. Donc, il va peut-être privilégier plus le volleyball assis.
Sinon, on imagine que la surface, etc., ça reste les mêmes dimensions. C'est que le filet est un petit peu plus bas pour en avoir déjà vu.
Ou les dimensions de la surface, le volleyball assis est plus petite. C'est okay. À peu près, pour donner une idée, comme à peu près comme un terrain de badminton, excusez-moi. Okay. C'est beaucoup plus petit. Mm-hmm. Et le filet, bien entendu, il est plus bas, à 1,15 m chez les hommes, 1,05 m chez les femmes.
On comprend que les gens en compétition donc, sont assis sur le sol. Est-ce qu'ils ont le droit de décoller leurs fesses de la surface ou leurs fesses doivent toujours être collées à la surface?
Les fesses doivent demeurer collées à la surface, surtout lors d'un contact de ballon. Okay. Les fesses ou les hanches, parce qu'on peut être sur le ventre aussi. Supposons on plonge, puis on est sur le ventre pour jouer un ballon. Uh-huh. Donc, on touche au sol. C'est ça. Fait que le contact des hanches-fesses doit être en tout temps avec le sol.
J'aimerais qu'on parle un petit peu de ta carrière qui a été bien remplie. Est-ce que ça te manque, premièrement, la compétition de haut niveau?
Oui, ça manque parce que des compétitions comme ça, c'est très intense. Tu donnes au maximum la fierté de jouer pour son pays. Il ne veut pas, il y a toujours une fierté à ce niveau-là. Mais j'ai la chance de continuer à jouer encore puis à jouer à des championnats assez intéressants et de haut niveau où les joueurs des équipes nationales se trouvent. Donc, ça me permet de garder cette intensité-là et ce défi-là.
Parce que vous êtes un jeune retraité, votre dernière compétition majeure, c'était le défi sportif ou...
Exactement, 2016, ma dernière compétition majeure, oui.
J'aimerais qu'on revienne aussi sur les Jeux paralympiques de 2017. Ça a été une grande déception pour vous de ne pas vous être qualifié. D'autant plus que vous avez déjà joué à Rio en 2007. C'était une belle expérience pour vous. Ça aurait été l'occasion de boucler la boucle, mais est-ce que vous êtes en paix avec cette déception-là?
Oui, je t'en fais. C'est sûr que parce que la qualification s'est jouée en demi-finale contre les Américains. C'était soit les Américains ou nous qui passaient pour les Paralympiques. Et ça a été un match très chaudement disputé où on menait souvent largement dans les sets, mais qu'on a échappé à la dernière minute. Donc, c'est sûr qu'après la partie, là, j'étais complètement défait. Là, j'étais en larmes. Ça m'avait fait un choc. Je savais que c'était ma dernière opportunité d'aller aux Paralympiques. Mais c'est sûr qu'après ça, j'ai fait la paix.
Puis vous aviez un match à jouer après pour le bronze.
Exactement.
Il faut remettre rapidement. Là.
Le lendemain, il fallait jouer justement pour le bronze. Et aussi, je savais que c'était une de mes dernières compétitions, dernier match d'importance dans une finale. Et je voulais vraiment savourer le moment, savourer mon dernier match, puis avoir du plaisir, puis partir avec des belles mémoires.
Et vous êtes encore un fan, évidemment, de volleyball assis. Vous allez passer la fin de semaine au complexe Claude Robillard pour en apprendre plus sur ce tournoi. Vous allez même faire la web diffusion pour le RDS.ca, être analyste. On va aller en apprendre plus sur ce tournoi-là en allant rejoindre par téléphone dans un instant Maxime Gagnon, directeur sportif du défi sportif, qui va nous dire pourquoi on a eu l'idée d'emmener ce tournoi-là à Montréal. Maxime Gagnon, qui a eu la gentillesse de prendre un moment de sa journée bien remplie, on le devine, pour nous parler un petit peu de ce tournoi. Bonjour, Maxime.
Bonjour, bonne journée à tous.
C'est toujours un plaisir de vous parler. Est-ce que vous pouvez nous parler de qu'est-ce qui se déroule en ce moment au complexe Claude Robillard?
On a les filles qui se démènent très bien contre les Américaines. Alors, c'est le tournoi de sitting volleyball, le Panaméricain. Comme José le disait, ce sont les sélections pour les prochains championnats du monde. Donc, c'est du haut calibre. Les gens sont fascinés par ça, de voir ce sport qui est méconnu, mais qui est tellement beau à voir. J'ai la chance de voir ce sport-là depuis 2000 environ, où on a vu les premiers balbutiements, pour moi, en tout cas, du sitting volleyball. Mais on est bien content enfin d'accueillir ce genre d'événement-là, parce que nous, le défi sportif, l'organisation en tant que telle, ça fait depuis 2007 qu'on travaille avec la fédération pour essayer de tenir un événement. Donc, vous voyez que la persévérance paie un jour, et on est content de recevoir aujourd'hui les Panaméricains.
Est-ce que les gars ont gagné ce matin?
Les gars n'ont pas joué encore, je crois. Ils jouent cet après-midi.
OK, Josée me fait signe que ce matin, ils ont joué. Est-ce que Josée, tu sais si
ils ont gagné? Ils ont gagné contre le Costa Rica. C'est le premier match à 9h. Ils ont gagné 3-0.
Ah oui, c'est le premier match à 9h. Désolé, j'ai fait la grasse matinée.
On vous le pardonne.
Je m'assume.
Ben, vous l'avez dit, Maxime, ça faisait plusieurs années que vous travaillez pour faire venir un tournoi majeur dans ce genre-là. Et c'est un peu un concours de circonstances qui a fait en sorte que on a fait appel au service puis à l'expertise de Montréal un peu à la dernière seconde pour organiser un tournoi dans un court laps de temps. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisation?
Bien, nous, à la base, je vous dirais que depuis 1996, j'ai la chance d'aller aux différents Jeux paralympiques d'été et pour faire la promotion du défi sportif Altergo, du sérieux de l'organisation. Depuis 2004 environ, on a vraiment commencé à parler avec les fédérations internationales pour leur dire, écoutez, on serait prêts à accueillir des événements à l'automne, septembre, octobre, novembre, décembre, des événements internationaux où on peut tenir ces événements-là parce qu'ils sont trop gros dans le cadre du défi sportif, parce que ça prend un omnisport toute la semaine. Dans le cadre du défi sportif, on sait que l'omnisport, chaque jour, c'est des compétitions différentes. Dans ce cas-ci, on laisse les plateaux monter tout au long de la semaine. Donc, les fédérations commençaient à nous connaître. Et lorsqu'on est allé au Jeux de Rio, on a parlé avec la Fédération de volleyball. Ils ont vu notre sérieux encore une fois, comme quoi qu'on était intéressés. Et là, malheureusement, il y a deux pays qui sont désistés pour organiser ces Jeux panaméricains-là. Et on a reçu un petit courriel comme quoi êtes-vous intéressé à organiser ça. Il vous reste 5 mois pour le faire, au lieu d'habituellement, c'est 1 an et demi environ. Donc, l'organisation, la structure organisationnelle qu'on a, nous, l'édifice sportif Altergo, les bénévoles de qualité que nous avons, on l'essaie et on est bien content du résultat. Et la fédération est très satisfaite et hautement satisfaite du résultat qu'on a fait jusqu'à maintenant.
Ça regarde bien pour de prochains événements du genre qui pourraient être organisés. Ça vous permet de gagner vos lettres de noblesse sur la scène internationale, en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous parler, et José et Maxime, je vais commencer avec José. Maxime a parlé brièvement de l'état du volleyball adapté qui gagne en popularité. Ça ressemble à quoi l'état au Canada et au Québec, l'engouement pour ce sport?
C'est sûr que le volleyball assis est quand même jeune au Canada. C'est juste depuis 2007 chez les hommes, mais chez les femmes, c'est encore plus récent, à partir de 2010. Mais plus sérieusement, où ils ont commencé à avoir des athlètes suffisants, là, on parle de 2012 et plus. Mais c'est un sport qu'il faut découvrir, c'est un sport qu'il faut développer, qu'il faut promouvoir. Il y a sûrement des jeunes athlètes ayant un handicap quelque part au Québec ou au Canada qui aimeraient ça participer, mais ils sont pas au courant.
Et ce type d'événement-là va servir de visibilité. Ils vont pouvoir découvrir des futurs mentors et peut-être s'inscrire. J'imagine que c'est un peu aussi l'idée que vous aviez derrière la tête, Maxime, en organisant cet événement-là, de faire en sorte de recruter des nouveaux talents de volleyball assis.
C'est sûr que la mission du défi sportif Altergo est de faire connaître des sports, de découvrir les nouveaux talents pour que les fédérations les découvrent. On a toujours besoin de la masse, c'est ce que je dis souvent. Tu peux pas jouer tout seul au volleyball dans ton salon ou dans ton gymnase, même si t'es meilleur au monde. Ça te prend les coéquipiers, coéquipières. Donc, de faire découvrir ce sport-là comme tout autre sport qu'on présente dans notre programmation régulière, c'est intéressant et on est toujours prêt à faire découvrir des nouveaux sports. Donc, il y a des différentes fédérations qui peuvent nous appeler ou associations pour faire découvrir des nouveaux sports et on va toujours être présent pour le faire parce qu'on croit que ces jeunes-là, ces athlètes-là ont besoin de sortir de l'isolement et comme vous et moi, ont besoin de saines habitudes de vie active. Puis l'intégration sociale, je vous en parlais tantôt aussi un petit peu dans son allocution, c'est important que ces gens-là ne soient pas isolés. Donc, le sport, je crois que c'est
c'est un tremplin.
La chose miracle, si vous voulez, là, pour sortir de l'isolement.
Oui, puis souvent, ça sert de tremplin pour l'estime après dans le travail ou comme le bénévolat ou aux études, etc.
Effectivement.
Je vois José qui hoche la tête en approbation. Le temps file, mais j'aimerais quand même qu'on aborde la question. Au Québec, en regardant les deux alignements, j'ai constaté qu'il n'y avait aucun joueur originaire du Québec, tant chez les hommes que chez les femmes. J'étais un peu surpris de ça. Est-ce que c'est parce que le sport est moins populaire au Québec qu'en Ontario ou en Colombie-Britannique?
Oui, le sport au volleyball au Québec est un petit peu moins populaire que le reste du pays. Lorsqu'on regarde, supposons, les championnats provinciaux, en Alberta, on va avoir 50 terrains pour accueillir des catégories cadets aux juvéniles, tandis qu'au Québec, on va juste avoir une vingtaine. Mais c'est ça, il faut continuer à faire la promotion, à faire découvrir dès un jeune âge le volleyball par du mini-volleyball ou autre, pour pouvoir que ces jeunes-là continuent par la suite.
Et en regardant les sites Internet des différentes fédérations, que ce soit au Québec ou dans les autres provinces, j'ai quand même constaté qu'il ne semble pas y avoir une affiliation officielle entre Volleyball Québec et les différentes organisations de volleyball adaptées, comme on voit par exemple avec Hockey Canada, qui soutient Hockey Luge officiellement. Est-ce que d'avoir une plus forte collaboration, ça aiderait à promouvoir le sport?
Tout à fait. Et puis d'ailleurs, Martin, le directeur général de Volleyball Québec, était là hier et on en a justement discuté. Et lui, il veut, il est ouvert, puis il veut qu'on développe des activités et l'intégrer dans les activités régulières de Volleyball Québec. Donc, on est à réfléchir ça. Puis dans les prochaines semaines, mois, on va pouvoir s'en reparler et essayer d'avoir quelque chose, un tournoi senior ou d'adulte où on va pouvoir intégrer aussi du volleyball assis.
En dernière question pour vous, en terminant, Maxime, est-ce que c'est aussi un des objectifs, en fait, de développer des liens plus forts avec les différentes fédérations de football, de volleyball en organisant cet événement?
Je vous dirais que le rôle du défi sportif Aldago est de faire connaître le sport, tant pour l'athlète, mais aussi pour les fédérations, souvent qui sont méconnues. Quelqu'un comme Martin, qui tient cette fédération-là à bout de bras, qui n'ont pas beaucoup de ressources humaines, pour lui, quand on l'a appelé tout de suite, il a dit « Go, j'embarque, puis je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai entendu parler de votre organisation, je connais José Rebello, tout est crédible, j'endosse, puis j'y vais, puis quand il est venu hier, ben José s'est occupé très bien de lui, lui a montré, lui a parlé des règlements, comment ça fonctionnait, puis il est sorti manifester enthousiaste, c'est-à-dire. Mais je vous dirais que ce qui est toujours important quand on veut faire découvrir un sport, c'est un ambassadeur. Quelqu'un comme José Rebello, qui est à la retraite maintenant, qui sait éventuellement sera un excellent ambassadeur pour partir de différents petits clubs au Québec de Sitting Volleyball. Mais tant qu'on n'a pas un pilier ou un ambassadeur qui va prendre ça à bout de bras, et je parle en connaissance de cause, les sports ont de la difficulté à lever, si on veut. C'est autant dans le sport régulier, mais encore plus dur dans le sport des personnes handicapées. Donc, je crois que... Je ne sais pas si mon collègue José entend le message, mais en tout cas, il lance le ballon.
La balle est dans son camp.
Oui, ça ce matin.
Puis ça revient pas. Ben aussi, il y a un autre outil qui est à la disposition que et José a souligné, et vous, Maxime, c'est l'importance de faire des tournées dans les écoles et dans les centres de réadaptation. C'est une autre méthode pour faire connaître ces sports.
Définitivement, c'est pas tout le monde qui joue au hockey, ça en prend qui joue au basketball, qui font la natation, alors tous les sports, puis c'est pas tout le monde qui fait du sport non plus, mais le but c'est de sortir de l'isolement et c'est une des missions d'Altergo si on veut.
Avant de vous quitter, Maxime, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, parce que vous êtes également entraîneur au Hockey Luge au Québec. La prochaine saison est entamée, on a connu les différents alignements pour les sélections. C'est une grosse année pour le Hockey Luge cette année.
C'est une très grosse année, tant au niveau canadien, parce que c'est les Jeux de Pyeongchang. On a une excellente équipe. Coach Babby a fait un excellent travail dans les 4 dernières années. Je pourrais vous dire que ça sent l'or facilement. J'ai eu la chance d'être parmi les entraîneurs pour la sélection, la dernière sélection qu'il y a eu. Et j'en suis très fier de ce que le coach a fait. Et pour ce qui est du Québec, on a ouvert 2 autres régions cette année. Alors, on a ouvert la Beauce et Gatineau, ce qui fait qu'on a 9 régions maintenant au Québec qui offrent la possibilité de pratiquer le hockey luge. Donc, qui sait, le volleyball assis, José, ça va me faire plaisir de t'aider si jamais tu as besoin un jour.
Okay. Merci beaucoup, Maxime. On vous laisse retourner assister au match.
Oui,
on sait que c'est une grosse journée pour vous.
Oui.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci à vous deux. Au revoir.
Plaisir. Ben, c'est presque déjà tout pour l'émission. José, est-ce que tu peux nous parler tout d'abord de la web diffusion? Ça va avoir lieu pendant toute la fin de semaine si les gens veulent suivre le tournoi?
Exactement. Demi-finale samedi, demi-finale 11, de par cœur, il me semblait que c'était 11h et 2h. Et la finale masculine et féminine du samedi, 11h45 et 2h de mémoire encore. Là. Mais vous pouvez aller sur rds.ca, c'est web diffusé. Je leur ferai l'analyse puis ça va faire plaisir de faire découvrir le sport.
On va certainement mettre un lien sur notre site internet. Est-ce que c'est une prochaine après-carrière qui vous attend? Peut-être l'analyse ou la description de volleyball?
Avec tout le mandat que Maxime m'a donné, je pense que...
On va se limiter à ça. Merci énormément, José. L'émission tire à sa fin. Moi, il me reste encore quelques petites nouvelles à vous lire en bref dans un instant. On passe maintenant du volleyball au tennis. C'était le début des championnats canadiens de tennis en fauteuil roulant qui ont débuté hier, jeudi, à Calgary, en Alberta. Il y a 5 Québécois qu'il faut surveiller lors de cette compétition absolument. Philippe Bédard, Gabriel Cyr, Jonathan Tremblay et Jean-Paul Meillot seront donc les représentants du Fleur d'Élysée chez les hommes. Il s'agit d'un retour à la compétition pour Philippe Bédard, qui est à l'écart du jeu depuis quelques mois déjà. Il tentera de décrocher une 5e couronne d'affilée, lui qui a raflé les titres nationaux en 2013, 2014, 2015 et 2016. Chez les femmes, bien Natalia Lanucha sera la représentante des dames. Les deux premiers jours du tournoi seront également webdiffusés en direct via PlaySight. L'équipe nationale de paranatation, par ailleurs, a perdu quelques-uns de ses membres clés alors qu'on a annoncé récemment que Nathan Stein, Davin Gotell, Isaac Buckley, Zach McAllister et Sarah Mayotte ont tous annoncé leur retraite de la natation compétitive. Pour ce qui est de Nathan Stein, il a changé son maillot contre un chronomètre puisqu'il entreprend maintenant une carrière d'entraîneur de natation. Il dit « Dans mon cœur, je suis encore un nageur et je le serai toujours. Je serai prêt à redonner à ce sport d'une manière différente cette fois. » Le nageur a connu une route chaotique pour atteindre le succès. À 12 ans, on lui a diagnostiqué la maladie de Koenig, une condition qui l'a obligé à subir 11 opérations à la jambe. Ce genre de circonstances aurait empêché plusieurs personnes de rêver un futur sport compétitif, mais Stein a persévéré et il se retire maintenant du sport après avoir participé 2 fois aux Jeux paralympiques. En 2012, il a rejoint un groupe de nageurs d'élite en remportant la médaille d'argent aux 50 mètres libres et en abaissant le record canadien, un moment qu'il n'oubliera jamais. Par ailleurs, en terminant du para-taekwondo, Anthony Capello est médaillé des championnats du monde de para-taekwondo 2017 qui se déroulait à Londres le 19 octobre dernier. Pas moins de 257 athlètes en provenance de 59 pays est inscrit à l'événement, ce qui en fait le plus gros tournoi de para-taekwondo de l'histoire. Anthony était en action chez les moins de 61 kg dans la catégorie K43 masculine et il a combattu du même côté du tableau que le favori Bofa Kong de la France. Anthony a dominé son premier combat contre le Kazakh Nizambek Aderbekov pour remporter 51-33. Il a tout juste raté la dernière ronde, s'inclinant 19-2 contre le français Kong. Anthony a défié Bofia avec détermination, y allant de coups de poing rapides et de coups de pied du revers contre son adversaire. Il a combattu intelligemment et vigoureusement, tout en étant pressé par l'approche sophistiquée du français, et il a quitté ce combat sans aucun regret. Anthony s'est entraîné avec acharnement pour cette compétition et il n'abandonne jamais, a déclaré son entraîneur Raymond Mourad. Nous ne sommes pas satisfaits du résultat parce que nous savons que nous nous sommes entraînés suffisamment pour atteindre la finale. Je croyais vraiment qu'il pouvait y parvenir, peut-être pas aujourd'hui, mais il pourra s'entraîner plus dur et y arriver la prochaine fois. C'est le sport, alors tu gagnes ou tu perds et tu apprends à faire mieux pour la prochaine fois. Taekwondo Canada, en terminant, désire féliciter Anthony pour cette première médaille des championnats du monde après 2 combats inoubliables. Son solide rendement lui a aussi valu d'importants points de qualification en vue des Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Le prochain arrêt pour Anthony sera les Jeux mondiaux 2017 qui se déroulera à Santo Antonio au Portugal du 30 novembre au 6 décembre 2017. Je vais évidemment vous tenir au courant. La semaine prochaine, au Signal, j'ai bien hâte, on va parler d'un sujet important, celui des commotions cérébrales, et on va recevoir un attaché politique du ministère de la Santé qui sera avec nous pour nous en dire un peu plus. Je rappelle en terminant qu'on est déjà à la 8e émission du Signal et que tous les sujets sont disponibles en balado diffusion sur vusetvoix.com si vous voulez les réécouter et les partager sur les médias sociaux. Et je vous rappelle également la webdiffusion sur rds.ca si vous voulez en apprendre un peu plus à l'émission. Encore une fois, merci beaucoup à José d'être venu nous parler du tournoi aujourd'hui.
Merci.
Et merci à Maxime Gagnon d'avoir pris le temps de nous parler. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Thank you.